Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors cette semaine, SmackDown avait lieu le 27 juin 2017 à San Diego. Et au menu, Kofi Kingston se croit dans 8 Mile. La Fashion Police joue au Bad Cop, Good Cop. Lana a droit à une seconde chance. Randy Orton et Shane McMahon ont quelque chose en commun. Et les filles s'affrontent dans le second Money in the Bank ladder match féminin de l'histoire. Incroyable programme, très attendu hein, cet épisode. Vous en avait parlé la semaine dernière. Hein. Très très attendu. Et d'ailleurs, Daniel Bryan annonce, c'est lui qui ouvre cet épisode, c'est pas pour rien, le GM s'est déplacé, ça y est, il est là hein, maintenant, il snob les pay-per-view mais pas les weekly. Il annonce qu'on aura une soirée de dingue, hein, évidemment avec ces deux matchs féminins, un pour le championnat et un pour la mallette, dont je vous ai parlé dans le menu. Bon, ok, hein, c'est deux matchs qu'on a quand même déjà eu il y a 10 jours, mais bon, c'est quand même affiche exceptionnelle. Ils ont un peu tendance à faire ça en ce moment, hein, refaire tout ce qu'ils ont fait en pay-per-view. Ouais. Ça pourrait être l'objet d'une discussion, ça, quand même. Hein.
C'est vrai.
Ce rapport de force entre les relations, la balance a un peu changé entre les pay-per-view, même s'il ne faut plus trop les nommer comme ça, et les weekly. Bref, Daniel Bryan se fait interrompre par Carmella qui rappelle l'injustice hein, dont elle a été victime. Souvenez-vous, Daniel Bryan, la semaine dernière, lui a retiré la mallette. Elle nous rappelle d'ailleurs la stipulation et le règlement qui clairement fait bien d'elle la gagnante incontestable. La mallette devrait être entre ses mains et pas en train de pendouiller comme ça à nouveau là au-dessus du ring. Daniel Bryan nous ressort un peu le même bullshit que la semaine dernière. C'est toujours cet argumentaire un peu étrange, où une fois que le mec t'a fait son argumentaire, à la fin, tu peux dire oui, il a raison et non, il a tort. Ça se tient, quoi, on va dire. Bref, pire, hein. Il demande l'avis du public. Un jeu un petit peu dangereux, avec des réactions. Bon, relativement, il a quand même réussi à embarquer la foule, hein, où il demandait est-ce qu'on doit annuler le match et redonner la mallette à Carmella. Bon, globalement, la foule disait non et certains, voilà, il y avait quand même des irréductibles, des fans de Carmella qui étaient dans la salle, mais en même temps, ils mettaient l'emphase sur le fait d'annuler quand même un ladder match. Donc bon, ouais. Le public s'est déplacé pour ça.
C'était biaisé.
Voilà, c'était un petit peu biaisé, ou à l'inverse, conserver le match pour le main event, et évidemment, là, tout le monde est d'accord. James Ellsworth, hein, qui est évidemment toujours sur les baskets de Carmella, il tape dans le dur hein, en s'attaquant frontalement à Daniel Bryan. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait un petit peu dépassé la ligne rouge, ce qui avait probablement conduit notamment Daniel Bryan à retirer la mallette. En tout cas, il était très en colère. Il le traite d'ailleurs de marionnette, lâche, obsédé par Carmella, qui se cache derrière une fausse blessure qu'il a trop peur de remonter sur le ring. Donc, il y avait un petit peu du mise là-dedans. Évidemment, Daniel Bryan, au début, est tout rouge, tout colère. Et puis, il fait « Ah, c'est bon, j'achète pas. Là, tu vas pas m'avoir comme ça. » Au contraire, hein, il va le prendre un petit peu de haut, lui faire les petites tapes sur l'épaule. Il le prend pas très au sérieux, James Ellsworth. Et là, sentence finit par tomber. Non seulement James, souvenez-vous, était banni des abords du ring. Hein. Ça avait été décidé dans le Talking Smack. Alors là, il commence à lui faire croire, à lui faire espérer qu'en fait, non, c'est bon, tu vas pas être banni des abords du ring, mais tu vas être banni carrément du stade. Et ouais, James Ellsworth. Alors évidemment, James Ellsworth, donc il appelle la sécurité. Daniel Bryan appelle la sécurité. Alors, il y a 4 Golgoth. Hein. Alors souvent, c'est marrant, il faut regarder les visages de ces gars. Peut-être dans 2 ou 3 ans, ce sera des superstars de demain. Souvent des mecs du Performance Center hein, qui font les agents de sécurité. Voilà, on a une séquence assez drôle. Moi, j'ai bien rigolé où James Ellsworth tente à plusieurs reprises d'échapper au gros bras de la sécurité. Il le traîne sur le ring, il s'accroche aux cordes. Et à chaque fois, il essaie de sauter par-dessus la barricade. Mais quand il saute, il va pas plus haut que s'il saute pas, en fait. Donc, il s'écrase bêtement, comme ces vidéos de chats qui tentent de sauter, tu sais, d'un meuble à un autre. Et en fait, ils font du surplace, littéralement. C'était assez ridicule. Et donc James Ellsworth qui se fait éjecter, bannir du ring. Je vais garder le main event vraiment pour la fin. Qu'as-tu pensé de cette petite intro?
Moi, j'ai trouvé pas mal cette intro. Alors, Moi, il m'a bien embarqué, la foule était dedans. J'ai pas trop entendu les Irréductibles dont tu parlais, j'avais plutôt l'impression que
Voilà.
du
Je pense
coup.
parce que je voulais les entendre, tu sais.
Il y avait une vraie ambiance un peu house show quoi, genre avec l'animateur, le grand le maître de cérémonie là qui arrive et qui fait ah vous voulez qu'on annule ce match, non vous voulez voir ce match machin. Moi j'ai
Pip
trouvé ça
pip.
assez drôle, ça, et puis en plus ça marchait bien parce que mine de rien je pense que Carmella quand même a bien su faire réagir le public dans le bon sens, à savoir a bien su se faire détester une nouvelle fois.
Encore une bonne promo, ouais.
Bon, alors c'est vrai, très étrange le contenu de sa promo qui était du copier-coller de celui de la semaine dernière. Ils ont exactement rejoué la même partition.
Ouais.
Je
Et,
sais pas
ouais.
trop, je sais pas trop pourquoi. On avait, tu sais, c'est toujours ces moments un peu bizarres où on a l'impression, quand j'aime pas trop ça, mais bon, c'est aussi, ça fait le charme un peu de la WWE. On a l'impression que d'un épisode à l'autre, le temps s'arrête. Et que en fait, du mardi soir au mardi suivant, les gens, tu sais, ils se parlent pas. Et donc là, ils reprennent le micro et puis ils reprennent exactement là où ils en étaient, tu vois, genre en mode, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas pu discuter du truc, quoi. Donc, là, ils sont là, ouais, machin, donc
Ouais.
ils ont repris exactement où ils en
Ouais.
étaient.
Non, mais
C'est
il
toujours un
y a
peu
vraiment
bizarre.
deux timelines en fait à WWE. T'as la
Ouais.
timeline des weekly, des pay-per-view, et t'as la timeline des live shows où effectivement
Ouais.
ce qui se passe dans les live shows, c'est un univers parallèle, hein. C'est comme dans les comics,
Ça,
toi, t'as plusieurs
c'est assez,
univers.
c'est assez drôle. Et puis, donc, écoute, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'intervention de James Ellsworth, je trouvais surprenamment bon, de mieux en mieux pour se faire détester. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de lui mettre une claque dans la tronche là quand il a commencé à
Là, il prend...
titiller.
ouais, il fait vraiment le mec qui est sûr de lui, qui est très
Ouais,
agressif, et puis
très très agressif.
mais qui aussitôt se fait réprimander et il regrette aussitôt, donc ça, c'était
Ouais, et
plutôt drôle.
donc, bon, et puis alors après, sa course-poursuite était hilarante. Donc, bon, écoute, voilà, je pense qu'à mon avis, ils ont rejoué tout le segment de la semaine dernière parce que, voilà, replantons le décor, remettons un peu de buzz, de hype dans la salle, dans l'arène pour être bien chaud pour le main event. Je trouve que ça a plutôt bien rempli son objectif à ce niveau-là. Donc, je leur excuserai cette répétition parce que
Ouais.
c'est plutôt agréable. Voilà.
Effectivement, bon, moi je te rejoins, c'est vrai que c'est même pas une impression de déjà vu, c'était carrément du déjà
C'était
vu,
la
hein.
même. Ouais.
C'était la même, donc ça on pourra le regretter. Maintenant, le fait est que stratégiquement, ils ont décidé de refaire la même chose. Ils ont décidé de refaire le match, ils ont décidé de refaire les mêmes séquences, donc bon, c'est vrai que c'était pas forcément très original à ce niveau-là,
Non. Plus à
mais...
destination du public dans la salle
Ouais,
que
voilà,
vraiment pour la télé, je
c'est ça.
pense. Ouais.
Clairement, c'était pour le public, hein. Tout était pour le public dans cette séquence d'intro. Donc, comme je vous l'ai dit, on parlera du main event, on le reprendra à la fin. Du coup, bah, on va parler de ce qui s'est passé entre-temps. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les Highbrows de retour, hein, affrontaient les Usos, souvenez-vous, une fois de plus, une petite stipulation, si les Highbrows battent les Usos ce soir, ils récupèrent une place de First Contender, place qu'ils avaient gagnée il y a 6 mois maintenant. Donc voilà, plutôt sympa de leur donner cette seconde chance. Hein, malheureusement, Mojo, bien que insensible aux claques qu'il reçoit de la part du frangin Uso, et les cabrioles et les sauts de Zack Ryder. Puis malheureusement, il y a cette énorme pub là qui bah, juste a bouffé 90% du match. Donc voilà,
Ouais.
en fonction de là où vous avez regardé l'épisode, vous avez vu ou non le match. C'était pourtant un bon match en soi. Il y avait plutôt une bonne alchimie. Mais à la fin, c'est les Usos qui l'emportent, hein, avec ce finish un classique pris par Zack Ryder, je crois d'ailleurs.
Oui.
Donc voilà, donc cette seconde chance n'a pas abouti. Les Highbrows donc retournent à la case départ, si je puis dire, et on va peut-être pouvoir se reconcentrer sur les liens qui les lient, qui les
C'est
unissent,
ça.
hein, et plus ou moins. La musique des New Day retentit. Les Usos ne pouvaient pas célébrer leur victoire aussi facilement. Ils annoncent, hein, les New Day, qu'ils affronteront à nouveau les Usos donc au prochain pay-per-view, donc qui sera Battleground.
Battleground,
Je
ouais.
n'ai pas la date là, mais j'imagine que c'est d'ici quelques semaines.
C'est fin juillet, je crois, troisième semaine de juillet, je crois.
De toute façon, la route est encore longue, hein, jusqu'à SummerSlam. Ils espèrent, hein, que cette fois-ci, les Usos ne s'enfuiront pas, qu'ils auront le temps de battre les Usos et que ces derniers ne s'enfuiront pas pendant le match. Petite référence, évidemment, au match du pay-per-view où les frangins s'étaient barrés. Les Usos qui ne l'entendent pas de cette oreille, ils n'ont pas envie de se faire charrier, donc ils répliquent à leur tour. Mais en gros, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, genre, vous méritez pas shot. Voilà, et ça part évidemment en rap battle, hein, entre les deux écuries. C'est les New Day, hein, qui vont avoir le dernier mot, notamment avec Kofi Kingston qui va se faire un petit trip solo là. Bon, voilà, je vous invite, hein, à écouter si ça vous fait kiffer ce genre de choses. D'ailleurs, on nous annoncera un peu plus tard que la semaine prochaine, ils s'affronteront dans un vrai rap battle cette fois-ci, hein, c'est officiel. Bon, écoute, qu'as-tu pensé de cette séquence du match? Je ne sais pas si tu as eu la version, si tu as eu accès à la version entière du match ou pas.
Si, ouais, j'ai regardé la version entière du match, mais alors moi, sur mon stream, c'était bizarre, j'avais un double écran, j'avais la pub d'un côté et le match de l'autre.
Ouais. En fait, c'est comme ça, c'est comme ça maintenant.
C'est vrai que c'est assez chiant. Je comprends pas comment ils font pour placer leur pub. On pourra en reparler parce que c'est pas le seul match qui a été handicapé. Je sais pas trop comment ils font pour placer leur pub. Ce qui est dommage parce que c'était plutôt un match qui, de la petite demi-fenêtre que j'avais sur mon ordinateur, avait l'air pas trop mal.
Ça a l'air pas trop mal là, sur ce 10 par 5 pixels. Ouais.
Non, mais ils ont fait un match classique, mais plutôt fun. J'ai bien aimé ce qu'ils ont réussi à faire en peu de temps. C'était très intense, très très rapide. Victoire, tout ce qu'il y a de plus classique. On s'attendait pas à autre chose. J'ai été assez surpris de voir que. Pas de teasing plus que ça d'une rupture entre les deux. Hype Bros, moi personnellement, ça me va parce que j'aimerais bien les voir continuer en équipe. Je trouve que la division en aurait besoin. Mais bon, écoute, on verra ce qui leur est réservé. Je pense que c'était parce que on voulait pas trop enlever le projecteur de la séquence qui suivait puisqu'il fallait faire venir les New Day. Moi, l'échange, je l'ai trouvé plutôt drôle. J'ai un peu plus de peur pour la rap battle qui a été annoncée pour la semaine prochaine. Ça me fait un peu flipper. Mais par contre, là, leur petit échange, c'était assez drôle. J'aime bien ce qu'a fait Kofi Kingston à la fin. Il l'avait déjà fait avec le New Day, qui est toujours très fan des mimes sur Internet, hein, des références pop Internet et tout. Là, ils parodient un peu. Les battles de rap un peu foireuses là, de Supa Hot Fire, pour ceux qui connaissent les trucs où ils balancent des punchlines à la con, puis après il y a tous ses potes derrière, il fait « Oh !»
Tu vas balancer la pauvre punchline de merde, mais c'est vraiment tes potes qui sont là derrière pour le transformer ça en truc énorme, alors qu'en fait c'est juste ridicule.
Donc c'est toujours assez drôle. Bon, on verra ce qu'ils arrivent à faire de leur rap battle la semaine prochaine. Moi je préférerais qu'on... Le New Day déjà dans leur promo font suffisamment de petits trucs drôles pour apporter la touche d'humour qui est propre à leur équipe. Je suis pas persuadé qu'il faille nécessairement faire rentrer les Usos là-dedans et un peu trop les ridiculiser. Ils sont meilleurs en badass un peu bizarre quand même, un peu lunatique. Ils ont quand même un personnage un peu chelou les Usos, mais ils sont. J'aimerais qu'on les ridiculise pas trop parce qu'ils sont vraiment pas mal du tout là en ce moment. Donc bon.
Ouais, je te rejoins aussi effectivement sur ce côté-là des Usos. Là, voilà, ils sont dans un périmètre un petit peu. Je pense qu'il faut pas aller trop. Enfin, ils vont aller un petit peu plus loin forcément parce que clairement la semaine prochaine on annonce un rap battle. Donc. Mais il faut pas trop qu'ils entrent dans le côté un peu trop comédie, on va dire trop où ils deviennent une parodie de leur gimmick qui sonne réel, c'est ce côté un peu ça qui est assez effrayant dans leur gimmick, c'est qu'ils font vraiment peur et t'as vraiment, enfin, c'est pas juste gangsta pour gangsta, il y a vraiment
ils ont l'air vraiment dérangés, tu vois,
ouais,
y a un
c'est
truc,
ça.
Ils sont pas nets quoi, il y a une case qui manque, mais c'est pas la même que celle des New Day, tu vois, celle des New Day, il y a une case qui manque parce qu'ils sont un peu loufoques, mais eux c'est, ils sont un peu dérangés, inquiétants quoi, c'est pas trop.
C'est genre de tu te retournes, le mec il a un couteau juste derrière. Toi, okay.
Ah, il faut un peu flipper quand même parfois.
Écoute, on va enchaîner avec. On continue avec la scène tag team, puisqu'on a eu droit à nouveau cette semaine à un épisode de nos petits chouchous ici au supplément SmackDown. Et je sais qu'on n'est pas les seuls à les adorer. La Fashion Police. Et oui, souvenez-vous, la semaine dernière, ils avaient mis la main sur The Ascension. Ils avaient affronté, pardon, lors du pay-per-view. Hein, c'est ouais, lors du pay-per-view, les The Ascension s'étaient révélés être potentiellement les agresseurs de Tyler Breeze. Du coup là, c'est l'heure de l'interrogatoire, hein, évidemment. On a toujours ce petit générique qui est juste succulent de la Fashion Vice, là, avec la mouette à la fin, qui est sur la plage. Et puis, t'as tous les clichés de la vie à Miami ou californienne, là, avec les beaux gosses, le jet ski, etc. C'est très, très drôle. Ambiance années 80. Alors, la Fashion Police intente d'arracher les aveux, hein, de leur méfait de The Ascension, mais rien n'y fait. Alors, ils tentent à plusieurs fois, ils jouent donc le jeu du mauvais police, méchant flic, gentil flic, mais ils sont pas très bons à ça. Alors, ils tentent à plusieurs fois de leur offrir des tickets de concert. D'ailleurs, sur le chat privé, on a pas mal discuté de savoir qui était ce Eddie Money dont on avait offert des places. Donc, visiblement, jusqu'à ce que tu disais, c'était un chanteur un peu...
Ouais, c'est genre le chanteur beauf ultime américain des années 80. Ouais, plutôt des années 80, mais... D'une manière ou d'une autre, vous avez probablement déjà entendu une de ces chansons dans un jeu vidéo ou à la télé ou n'importe où.
Mais ah, carrément dans un jeu vidéo.
Oui, probablement.
Hein.
Toi qui joues à GTA San Andreas, tu as probablement déjà entendu des
Il n'en faut pas plus pour ressortir ma vieille PlayStation.
Le mec, non, mais bon, voilà, c'est pas de la grande musique, hein, mais c'est un des incontournables.
Ouais. Bon, voilà, donc ils essaient de se faire soudoyer à base d'un. On leur propose également un plat de fruits frais ou de. Je ne sais
pas. Fromage, non? C'est pas du fromage.
C'est du fromage. Je sais pas, ça ressemble pas trop. Ouais. Ah, d'accord, ça ressemble pas trop à un plateau de fromage comme
non,
chez nous, tu vois.
Ouais. Des fromages de toutes les couleurs, un peu bizarre.
Là, toi, pour mon anniversaire, ma petite soirée d'anniversaire, je vais organiser une soirée plateau de fromage. Je t'assure que ça va pas ressembler à ça.
Ça va pas ressembler à ça. Je suis d'accord, mais heureusement.
Je crois que j'aurai pas de cadeau.
Heureusement pour tes invités, ouais.
Bref, alors c'est plutôt drôle parce que tu vois, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand Tyler Breeze, ouais, il fait ah, c'est bon, je m'en occupe et tout. Et puis, je sais plus, il leur met une preuve sous le nez et puis les mecs disent non, c'est pas nous. Et puis il fait ah, vous savez quoi, ouais, je vous crois, ok, d'accord. Puis il repart voir Fandango qui lui aussi n'avait échoué dans son tentative d'impressionner les Ascension. Ils font putain, ils sont vraiment trop forts, c'est des gars trop durs et tout. Enfin, je vais jamais réussir à les briser et tout. Donc, c'était assez ridicule. Et tout d'un coup, un bruit vient d'une autre pièce, hein, évidemment. Il y a le vacarme, ça vient de leur bureau, parce qu'ils étaient dans la salle d'interrogatoire et ils vont voir. Et le bureau a été visité, retourné. Toutes leurs affaires sont en vrac. Donc c'est une preuve que, alors il y a plusieurs théories, soit c'est quelqu'un d'autre, ce ne sont visiblement pas The Ascension, soit c'est un complice peut-être de The Ascension.
Mais
on se souvient que dans beaucoup de films, il y a plusieurs, parfois dans les films il y a plusieurs tueurs, il n'y en a pas qu'un. Toi, quelle est ta théorie? Au-delà de, j'imagine que tu as kiffé cette scène.
Oui.
Parce qu'il reste plus grand monde, puisque potentiellement c'est une équipe tactique, une tag team, quoi.
Ouais, c'est probablement une tag team. C'est vrai que le mystère s'épaissit, hein, comme l'a dit Tyler Breeze, hein, cette enquête a plus de couches que la coiffure de Heather Locklear, là, la star de Melrose Place.
Ah, vite, je suis passé à côté de ça. Oh là là, et moi qui adorais regarder
encore,
cette série,
encore une référence, des années plus tôt que des années 90, là, mais, de toute façon, c'est un festival de punchline à chaque fois. Hein. Mais, oui, cette enquête s'épaissit, hein, je dois t'avouer que je sais pas. Moi, ça commence à m'intéresser, à me titiller. Je me dis, maintenant, ils nous font des faux finishes, des fausses révélations. Là, on a cru que c'était The Ascension qui nous a expliqué que, mais non, mais en fait, nous, on voulait juste un match à Money in the Bank. Alors, du coup, on vous a envoyé une cassette à la con, mais c'est tout et tout.
Ah oui, c'était excellent.
Ce qui était très drôle parce que, du coup, tu te dis, ouais, c'est vrai, ça se tient et tout.
Et les mecs, donc, ils sont carrément, ils sont en manque d'antenne.
Ouais, donc pourquoi pas, c'était très très drôle, j'ai trouvé. Mais donc, on ne sait toujours pas. Alors, maintenant que le mystère s'épaissit, que l'enquête avance et que leurs personnages sont de plus en plus amusants, je dois avouer que je commence à avoir une petite attente, quoi, une petite excitation de savoir qui est-ce que vraiment vont être les agresseurs, quelle va être l'issue de l'enquête. J'espère que, est-ce que ce sera une nouvelle équipe? J'ai du mal à avoir des candidats vraiment crédibles.
Bah, en tag team, dans le roster actuel, il ne reste plus rien, en fait.
Non, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte petit à petit que chaque semaine, en fait, ils nous font des ficelles grosses, grosses comme une corde. Ils nous ont fait croire que c'était les colons avec des blagues autour de l'eau de Cologne et l'hibiscus et trucs comme ça. Ils nous ont fait croire que c'était The Ascension avec la vidéo et le match et tout machin. Donc en fait, c'est tous ces écrans de fumée. Je me dis, bah écoute, ça pourrait être marrant que ce soit une nouvelle équipe, une
Ouais,
arrivée, je sais pas.
effectivement.
Écoute, voilà, comme je suis peu la scène NXT, je sais pas qui est-ce qui serait susceptible de monter, mais en tout cas, ça me ferait marrer que ça aboutisse là-dessus. Donc, ça pourrait être une façon très originale d'aboutir à une arrivée. Donc, voilà, moi, ça me ferait bien rire. Mais le segment était encore une fois exceptionnel. Allez le voir, c'était fantastique. Le coup, on va faire les good cop, bad cop, et puis à la fin, il fait, ouais, en fait, on a fait good cop, là,
Oui,
ça
c'est
va pas.
ça.
Donc,
Les mecs, c'est
bon,
trop
bref.
gentil, trop sympa, quoi.
C'était génial, c'était
Bon,
génial.
on va quitter la scène tag team et rejoindre la scène féminine, le temps d'un match, mais pas n'importe lequel, un match de championnat, puisque dans toujours ce délire de on refait la même chose toutes les semaines,
Refait le match.
on refait le catch. Naomi donc défendait à nouveau son titre face à Lana. Alors, là, c'est simple, il n'y a même pas eu besoin de mettre de la pub pendant le match, puisque le
Ah
match a
bah.
duré 1 minute. Lana qui attaque avant que la cloche sonne, elle place ce qui ressemble à son potentiellement un finisher,
Oui, c'est ça.
ce spinebuster là, pour le compte de deux. Naomi se rebiffe, elle se bouffe un énorme coup de pied, enfin elle donne un énorme coup de pied pardon à Lana dans la tronche. Elle en profite pour grimper en haut du turnbuckle, elle place son moonsault, c'est le moonsault de la victoire. 1, 2, 3. Naomi conserve. Menace Lana écartée. Écoute, moi personnellement, j'ai trouvé ça d'une connerie assez monumentale d'avoir expédié ça en 1 minute. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, j'ai pas. Ouais, pareil, en fait, j'ai pas trop compris l'idée.
C'est ça. Qu'est-ce qui les a motivés à faire ça en fait, toi?
J'ai pas trop compris l'idée. Bon, alors, d'un côté, il y en a une qui s'en sort évidemment très bien, c'est Naomi. Hein, voilà, elle a repris un max de momentum. Elle en avait probablement peut-être un peu besoin. Bon, soit. Par contre, là, c'est vrai que la manière, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, Lana. Est capable de tenir tête, on va dire, dans un match accroché à la régulière à Money in the Bank pendant, je sais plus, elles ont fait un match de quoi, 7-8 minutes probablement au
Ouais,
pay-per-view,
et
quelque
dont
chose comme ça.
l'issue avait été parasitée par la
Voilà,
venue de Carmella, donc.
il y avait une distraction, des trucs comme ça. Et là, soudainement, même en l'attaquant par derrière, elle se fait démolir en 1 minute. Donc du coup, ouais,
Pourquoi?
les deux matchs, c'est pas, je comprends pas en fait ce qui s'est passé entre les deux matchs. Pourquoi est-ce que d'un seul coup Lana se fait sécher en un move alors qu'avant c'était, enfin bon bref, j'ai pas compris.
Ouais, je comprends pas non plus parce que enfin rien nous a été raconté, il manque y a un trou dans l'histoire, toi.
Ouais,
C'est
il y a un truc qui manque quoi, je sais
si ça
pas,
avait été
parce que
par exemple, ça aurait pu être ok, Naomi, je sais pas, elle s'est déconcentrée, enfin tu vois ce que je veux dire, parfois les mecs ils se font avoir parce qu'ils sont plus concentrés, ils pensent à autre chose, etc. Ils se font un peu secouer les puces par un gem ou un pote ou je ne sais pas qui, et puis ok, t'as raison, d'accord, je vais te montrer, et puis voilà, 1 minute à envoyer, c'est pesé. Ou alors, enfin, il y avait plusieurs raisons. Ou alors, dire à elle, Lana, c'est une grosse tricheuse. Il y a qu'en trichant qu'elle arrive à gagner, mais à la régulière, elle galère. Mais en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on nous a montré lors du pay-per-view.
Ah ouais.
Du coup, il y a vraiment un trou là en termes de booking,
Ouais,
de booking.
y a un truc qui colle pas, donc du coup j'ai pas trop accroché. C'est vrai que je me suis juste dit, ah ouais, bah en fait Lana elle est nulle. Enfin, genre c'est tout quoi.
Ouais,
Genre.
non, et en plus tu dis que Naomi récupère du momentum, mais elle le récupère, enfin, quoi dire, ça dure 10 secondes, et enfin,
Ouais.
c'est un shoot de momentum, toi. Sur le long
Ouais.
terme, c'est pas forcément bon, je
Non, c'est
trouve.
pas parce que c'est pas parce qu'elle a écrabouillé Lana en 1 minute que je me dis que c'est une super championne et que machin machin quoi. Donc ouais.
Donc bon, à voir. Écoute. On enchaîne avec Aiden English qui est de retour. Eh oui. Souvenez-vous des négligés, parce qu'on s'était enthousiasmé la semaine dernière du retour de tous les portés disparus, mais il en restait encore un, tellement disparu qu'on l'avait oublié, c'est Aiden English, qui pousse la chansonnette. Alors il la pousse évidemment magnifiquement, quel plaisir hein, pour nos cages à miel. C'était assez drôle, il, le Beethoven du baraton, il était le, je sais plus, j'ai oublié comme ça il faisait.
Là, maintenant les petites lunettes rondes fumées, le chèche un peu là.
Voilà,
genre,
on se voit dans un bar de poètes, tu
ouais,
vois.
Ouais.
C'était assez drôle, évidemment. Enfin évidemment. Et voilà, personne ne va le laisser tranquille à pousser la chansonnette. Quand bien même, il a plutôt une belle voix. C'est la musique hein, de Randy Orton qui retentit. Aiden English a compris. Hein. Même toi, Giscard, tu as compris à ce moment-là. Moi,
oui,
j'ai compris. Tout le monde a compris. Randy Orton va pousser un nouveau jobber après avoir aidé Jinder Mahal à grimper jusqu'au top, à la top card. On se dit, ça y est, c'est bon pour Aiden English. Il va,
c'est le tour d'Aiden English.
C'est le tour d'Aiden English de tutoyer les sommets. Bon, évidemment, non, on ne s'est pas dit ça. Au contraire, hein, pendant la pub, parce qu'il y a une pub, évidemment, où il lui a placé son RKO, parce qu'évidemment...
Bon, on va quand même pas nous donner ça à la télé. Hein,
bah non, parce que c'est ça coupe, et en fait, tu revois, après, il n'y a plus Aiden English, et Randy Orton est assis sur une chaise au milieu du ring. Donc, c'était complètement...
Il a mangé Aiden English, on ne sait pas.
Il l'a bouffé. Bref, Randy Orton n'est toujours pas content, il rappelle les derniers événements, hein, qu'il annonce qu'il va remettre la main sur l'Indien, hein, Jinder Mahal, il lui botter son petit cul de Punjabi. Donc il gueule. Donc il réclame un rematch, voilà, histoire de lui mettre une petite correction. Et alors qu'il commence un peu à être tout colère, à dire qu'il va aller dans les vestiaires, il va le chercher, s'il doit faire tout le tour, enfin voilà, il va le poursuivre jusqu'à ce qu'il lui mette sa dérouillée. C'est la musique de Shane McMahon qui retentit. Il est pas très content, Shane. Donc hein, comme je l'ai dit, hein, maintenant ça y est, hein, toutes les six levels sont de retour hein, après avoir snobé les pay-per-view. Il n'est pas content de l'attitude assez agressive de la vipère. Il dit bon, écoute, il le réprimande. Hein, écoute, faut que tu te calmes. Tu peux pas là comme ça décider, enfin faire qu'à ta tête. Randy Orton, donc il réclame la tête de Jinder hein, au nom de sa famille qui était bafouée hein, lors du pay-per-view. Et puis Shane commence un peu à s'adoucir, à comprendre, fait ok, je compatis. C'est vrai que je comprends. Enfin, moi aussi j'ai connu ça. D'ailleurs, t'étais un peu impliqué. On se souvient un peu voilà des histoires entre Randy Orton et la famille McMahon. Il dit écoute, voilà, on va mettre nos malgré nos différends, on était un peu dans la même galère. Écoute, je te donne donc ton rematch. Enfin, ton rematch, hein. Voilà. Donc ok, bon, finalement ça passe crème.
Suffit de demander,
mais à une petite condition, c'est que bah écoute, on donne ton rematch et c'est Jinder qui aura le droit de choisir la stipu. D'ailleurs, Jinder Mahal ne se fait pas attendre. Hein. La musique de l'Indien retentit et il annonce qu'ils s'affronteront. Qu'il a déjà fait son choix en fait. Il a déjà pensé, toi, à cette stipulation. Et pour lui, il n'y a qu'une stipulation possible pour ce match. C'est la Punjabi Prison Match, souvenez-vous évidemment, en l'honneur hein, de son héros de jeunesse, le Great Khali. Oh, ça me fait marrer parce qu'ils n'étaient pas très copains dans mes bons souvenirs. Donc hein, c'est cette stipulation où tu as une double cage en bois renforcé d'acier et il faut en sortir en fait pour pouvoir vaincre. On avait eu notamment un match entre le Great Khali et Batista. Et voilà donc la suite du programme à Battleground. On aura donc un match dans une double cage en bois. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Que des bonnes choses. Déjà, je dis bravo. J'ai beaucoup aimé la promo de Randy Orton. J'aime bien le Randy Orton. Je m'en bats les steaks. Je vais tout casser. J'en ai marre de faire des petits sourires, de rigoler, de faire des... machin comme ça sur les turnbuckles. Non, maintenant il y en a marre, l'autre il commence à me casser les bonbons, je vais le démonter. En substance, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je l'attendrai au début si je peux pas le trouver, hein, j'attendrai à l'entrée du stade, à la sortie du stade, à son hôtel, à la gym, genre je vais lui foutre des RKO dans tous les sens jusqu'à ce que j'ai le droit à mon rematch. Si jamais tu me vires, eh ben je m'en fous, j'achèterai des tickets et je viendrai dans le public et je le défoncerai aussi, j'irai en Inde, je m'en fous. Donc ça j'aime bien encore, hein. C'est toujours dans la lignée de son interview qu'il avait fait où il disait qu'il allait archéo la grand-mère de Jinder Mahal. On est un peu on est un peu dans cette lignée-là. Donc moi, j'aime bien ce Randy Orton. Il y a une progression. Moi, je trouve que moi cette feud, elle marche bien. J'y crois à l'énervement progressif de Randy Orton. Premier match, il prenait pas du tout Jinder au sérieux. Deuxième match, c'était contre lui qu'il en avait parce que il s'auto-flagellait d'avoir perdu contre une merde comme ça. Et au troisième match, là maintenant, là c'est terminé. Là c'est contre Jinder qu'il en a. Là maintenant, il en a marre. Et donc là, ça va chier des bulles. Donc j'aime bien ce côté-là. Donc du coup, donc Shane McMahon, bon, qui joue son rôle de bookie. Randy Orton a déjà perdu deux fois, donc j'aime bien qu'on donne un petit peu quand même un petit avantage au champion en lui laissant choisir sa stipule. Et puis bah écoute, après la stipulation. Moi, je la connais pas trop en fait. Il y en a eu combien? Il y a eu un Great Khali contre John Cena en Punjabi, non? C'était pas ça?
Batista.
Contre Batista, ok. Je sais même pas.
Il y en a peut-être eu deux des matchs, mais c'est le seul dont je me souviens. Mais écoute, à nos auditeurs de mener l'enquête. Ouais. Voilà, si vous avez souvenir de.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en ai jamais vu. Moi, personnellement, je les ai pas. Ce sera l'occasion d'aller sur le network et de les re-regarder. Mais toujours est-il que c'est une stipulation qui est ultra rare, donc forcément, il y a un côté excitant. Ils jouent là-dessus, hein, pour essayer de. Parce que c'est quand même le troisième match entre Jinder Mahal et Randy Orton, donc faut trouver des artifices parce que. Même si j'ai beaucoup aimé le deuxième, ça reste du catch quand même. C'est pas le catch de folie. Donc, écoute, pourquoi pas. Moi, j'aime bien. Quand c'est exceptionnel et que ça fit dans la storyline, j'aime bien l'utilisation de ces stipulations qui sortent de l'ordinaire. Je regarde, apparemment, il y a eu un Undertaker contre Big Show en 2006 dans un Punjabi prison match.
Okay, et oui, c'est vrai que les fameuses origines indiennes de l'Undertaker.
Les fameuses. Et Batista, Great Khali, c'était en 2007. Alors, je sais pas, ouais, manifestement, ils n'ont pas attendu d'avoir un Indien pour le faire. Donc, écoute, pourquoi pas. Et puis, en plus, ça donne un côté. Je trouve que Jinder Mahal gagne en assurance semaine après semaine. Le fait qu'il choisisse une stipulation comme ça. Le met un peu en position dominante, dire écoute, j'ai pas peur, je vais m'enfermer dans ma cage tradition de mes ancêtres avec toi et on va se foutre sur la gueule et tout. Je trouve ça pas mal. Moi, le segment dans son ensemble m'a plutôt bien mis en condition pour cette troisième rencontre.
Ouais, bah écoute. C'est plutôt bien amené. D'ailleurs, le parallèle assez marrant de se dire que, si tu mets en parallèle le match Greg Khali contre Batista et Jinder contre Randy Orton, quand on connaît les liens qui lient tous ces personnages-là, Batista et Randy Orton avec l'Evolution, et puis Jinder Mahal et Greg Khali avec leur origine indienne. Non, mais oui. Avec le fait que voilà, ils étaient dans une rivalité, ils étaient à coquiner au début de, enfin, l'arrivée de Jinder Mahal. C'est plutôt marrant que 10 ans plus tard, ce soit pas de, il y a une espèce de, un petit lien. J'irais pas que c'est un passement de, enfin, une nouvelle génération. Parce que, voilà, Randy Orton, Batista, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais c'est plutôt marrant. Et effectivement, moi, en tout cas, ça attisait ma curiosité. Ce qui était. Alors que j'aurais. On s'attendait à ce qu'il passe peut-être à autre chose. Là, le fait de rajouter cette stipulation aide là justement à accepter le fait qu'on a un troisième match. Et comme tu le dis, en plus, il y a une petite évolution, un petit travail quand même sur les motivations de Randy Orton qui sont appréciables. Et peut-être même assez parfois un peu trop rare dans les rivalités
d'expliciter pourquoi est-ce qu'un personnage est motivé, est vénère, est machin, est comme ci et comme ça. Là, il le dit semaine après semaine, il explique pourquoi et tout. Donc du coup, nous on comprend.
Si tu fais ce travail-là, t'acceptes que t'es 1, 2, 3, 4 matchs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, le seul truc, ça c'est presque qui est faible, je ne sais pas si c'est qui est faible, mais le fait que ça soit pour le championnat,
ça aurait pu ne pas être
pour le championnat, parce que oui, finalement, ce qui l'intéresse c'est moins lui mettre sur la gueule. Alors, il rappelle quand même que pour lui, c'est toujours à lui la ceinture,
il veut récupérer
la ceinture, mais après tout, il l'a eu déjà sa chance pour le championnat. Et ce qui a convaincu Shane McMahon, c'est plus les motivations de Randy Orton plutôt que la légitimité qu'il a d'affronter à nouveau Jinder Mahal pour le titre, parce que à part les interventions qui n'ont pas été forcément la faveur de Jinder Mahal, enfin, toi, Randy Orton s'est quand même assez facilement débarrassé des sbires. Ça s'était terminé de façon plutôt clean, toi, donc ça c'est un petit peu too much, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura un quatrième match, et assez coutumé du fait récemment, Randy Orton se retrouver dans des matchs pour conclure des rivalités sans titre en jeu. On se souvient de Bray Wyatt. Bref, on en a suffisamment parlé de cet Indien et de cette vipère. On va attaquer le dernier match des garçons qui opposait Sami Zayn au Baron.
Oui.
Sami Zayn qui, pour son entrée, va interrompre le couple de l'amour. On les avait pas vus la semaine dernière. Monsieur et Madame Canelis ou Canelolis, là.
Canelloni, ouais.
Canelloni qui commence à déverser leur horrible amour à la face du monde.
Ah, arrêtez!
Ils se font interrompre par l'entrée de Sami Zayn qui est un peu gêné. Il les avait pas vus. Et, il se retourne, il fait pardon, excusez-moi, je suis désolé. Ça va, continuez ce que vous êtes en train de faire. Et puis hop, il rejoint le ring, suivi du baron. Un match. Alors attends, où est-ce que j'ai mis la voilà. J'ai pas fait, bon, pas un énorme résumé parce que les deux se connaissent hein, très très bien. Il y a rien de très nouveau. On retrouve vraiment tout ce qui a fait le sel pour ceux qui ont apprécié leurs différentes rivalités. En tout cas, c'était que le baron, voilà, il se fait plus avoir cette fois-ci. C'est la grosse différence. Hein. Maintenant, le baron, il est en confiance, il a la mallette, il en a marre de ce petit moustique. Il veut l'écraser une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Et c'est ce qui va se passer puisque malgré toutes les cabrioles de Sami Zayn, le baron, il lui met des grosses patates et surtout, il lui place un end of days pour le compte de 3. Incroyable mais vrai, le porteur de mallette gagne un match. Ça c'est assez.
Ça c'est fort.
Parce que juste avant, je disais à ma copine avec qui je regardais cette magnifique rencontre, tu vas voir, ça y est, c'est à partir de maintenant que le baron va perdre tous ses matchs. Eh ben non, je me suis fait.
Et non. C'est la baron révolution.
C'est la bar révolution. Ouais, je sais pas.
C'est la bar révolution.
Juste pour conclure sur cette séquence, après backstage, oui, Nakamura il a interviewé parce qu'il a regardé le match hein, entre deux épisodes de la série Glow. Est-ce que tu regardes d'ailleurs la série Glow sur Netflix?
Non, je regarde pas la série Glow, je sais pas ce que c'est.
Tu ne sais pas ce que c'est?
Non, carrément,
c'est
je sais
une
même pas
série
ce que
sur le catch.
Ah bon?
Mais bien sûr, ça se passe d'ailleurs dans les années 80, je crois. 80, peut-être début des années 90, peut-être pas plus.
Ouais.
Ça suit en fait une fédé, si je puis dire, enfin une fédé. C'est des femmes en fait qui montent voilà une fédé de catch. Bon, t'as un booker enfin réalisateur, etc. Et ils créent donc une mini fédé de catch, hein, une écurie. Et puis c'est pas des professionnels, hein, filles, donc tu les suis comme ça. Et c'est très drôle parce que ça déconstruit un petit peu la construction justement du catch. Tu vois pas mal de choses backstage avec comment on construit un match, comment on crée des gimmicks, comment on se construit une personnalité en puisant dans les personnalités vraies de chacun, leur histoire, etc.
Peut-être falloir que je regarde ça.
Je te le conseille.
J'ai plus de place sur ma to watch list là, mais
il y a 10 épisodes, ça dure 30 minutes. Un épisode, c'est de la comédie ça parle à la fois aux gens qui n'y connaissent rien parce que ça reste très accessible. Il y a finalement très peu de catch, l'emphase est mise surtout sur les personnages ce qui les amène à catcher et comment ils vont réussir à trouver leur bonheur dans le catch, à s'épanouir en tout cas. Et c'est assez intéressant aussi pour justement les suiveurs comme nous parce que tu vois des choses qui sont vraies. Tu vois vraiment ce côté backstage qui est assez intéressant. Bon voilà, ça reste de la fiction, mais bon. Écoute, okay. fin de la parenthèse, où Shinsuke Nakamura apparemment est fan de la série une intervieweuse lui annonce que le public veut voir un match Baron versus Nakamura. Moi je dis oui, je veux voir n'importe quel match avec le Baron dedans. Ce à quoi le japonais réplique que le Baron est dangereux. On est d'accord. Et puis après il dit des trucs un peu idiots du genre il est dangereux parce qu'il a peur de Nakamura. Alors, ça, par contre, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça.
Déjà il a fait des phrases sujet verbe complément.
Incroyable. Est-ce que finalement on pourrait résumer tout ça au fait que Baron arrive en c'est mieux que comment ça s'appelle Wall Street English. cette ouais. société qui t'apprend. Peut-être que Baron devrait monter une école pour apprendre l'anglais, parce que une fois qu'on a mis le Baron dans les pattes de Shinsuke, il semble.
Soudainement, il commence à. Apprendre... Ouais.
Il arrive à aligner les phrases.
Bon, c'est pas encore ça quand même. Hein. Mais il y a du progrès.
Bon, sinon, t'as pensé quoi du match, de la victoire du Baron?
Le match était plaisant. J'en ai pas pensé grand chose parce que j'ai pas trouvé qu'ils nous aient embarqué quelque part par rapport à ce qu'ils avaient fait par le passé. Ouais. Mais ils ont clairement développé une très très bonne alchimie tous les deux. Et maintenant, je pense que ils sont capables de faire des matchs comme ça sur un rythme régulier, savoir. Nous faire des matchs ultra solides comme ça en weekly quand on a besoin d'un bon petit match de 8 minutes avec deux mecs qui se connaissent bien, bah tu peux Baron Corbin, Sami Zayn, ça fonctionne bien. Donc j'ai passé plutôt un bon moment pendant ce match-là. Mais rien de transcendant, ils ont pas fait beaucoup plus que ce qu'ils avaient pu faire par le passé. Et en effet, j'ai été agréablement surpris de la victoire du Baron. Moi aussi, je pensais que la malédiction de la mallette allait frapper, mais non. Donc très bien.
Ouais, bon après on le met dans les pattes de Shinsuke visiblement, alors ça risque d'être un peu plus compliqué pour le Baron.
À voir.
Tiens, petite anecdote. Tu aimes les anecdotes? Vous aimez les anecdotes?
J'adore ça.
Le Baron est passé dans le podcast de Chris Jericho il n'y a pas longtemps. C'est génial parce qu'on apprend toujours plein de choses. C'est une de mes sources numéro une pour les anecdotes. Alors, sache que le Baron est propriétaire d'une maison.
Très bien.
Propriétaire.
Je suis pas surpris.
Il est propriétaire, en tout cas il vit dans une maison, et sais-tu à qui appartenait cette maison avant lui?
Non,
c'est un catcheur. C'est un catcheur qui est encore en activité, mais on le voit plus souvent.
C'est Asina?
Non, il est plutôt du côté Raw. On l'a vu la semaine dernière dans une séquence qui impliquait Enzo et... Non, c'était il y a deux... Ouais, c'est la semaine dernière avec Enzo et Big Cass.
Ah, Big Show alors.
Le Big Show, eh oui. Ouais. Le Baron vit dans l'ancienne maison du Big Show.
Ah, ça doit être une grande maison alors.
C'est une grande maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vit dedans. Parce que c'est une maison qui est totalement adaptée à la grandeur des énergumènes. Il vit avec sa chair et tendre, hein, le Baron. Parce que, malheureusement, son cœur est
monsieur,
pris.
Monsieur
et
le
en
Baron.
Fait, bah, tout est en hauteur. Les meubles, les étagères, tout est très haut. Et du coup, elle galère à chaque fois. Elle est obligée de lui demander.
Elle est petite.
Lui demander, voilà. Elle est petite et lui est grand. Mais sais-tu à qui appartenait cette maison avant? Il y avait Big
avant
Show,
le Big Show.
Une Big Show, à l'époque, lui, il est devenu propriétaire de cette maison. Mais avant,
un autre géant.
Un autre géant, effectivement.
Je sais pas, André
Non, plus récent quand même. On l'a vu il n'y a pas très longtemps et on ne le reverra plus catché entre les cordes.
On l'a vu l'Undertaker.
Voilà, il a déposé son chapeau il n'y a pas très longtemps. L'Undertaker, c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, d'accord. C'est une sacrée maison qu'il a là. Hein.
Sacrée lignée, sacrée legacy. Hein. Donc, ouais, la maison des géants. Écoute, je ne sais pas où elle est, mais il vit voilà, dans la maison des géants. C'est plutôt marrant de voir cette maison qui est transmise de géant en géant. Autre question, autre anecdote. Sais-tu ce que transporte le Baron dans sa mallette? Parce que c'est vrai, tout le monde a ça. Ils ont leur mallette. La mallette.
Et sa mallette de Money in the Bank.
Sa mallette de Money in the Bank. Il s'est dit, attends, parce qu'en fait, ils sont responsables. C'est comme la ceinture. Tu sais que quand ils ont une ceinture et quand ils ont la mallette, ils sont responsables. Ouais. Ils se la trimballent à travers l'aéroport, quand ils passent les checkpoints, etc. La sécurité, ils doivent ouvrir la mallette et montrer ce qu'il y a dedans. Quand le Baron passe au portique de sécurité et qu'on lui demande d'ouvrir la mallette, d'après toi, qu'est-ce que les agents de sécurité y trouvent à l'intérieur?
Je sais pas, il a foutu. Son gel, son huile pour les cheveux, le dégueulasse là dedans.
De quels cheveux tu parles? Parce qu'il en a plus beaucoup.
Il en a plus beaucoup. Et comme c'est un produit liquide, il faut qu'il la garde dans un bagage cabine.
C'est moins cosmétique que ça, c'est plus pour son entertainment personnel dans l'avion quand il s'ennuie, toi.
Ah bah, je sais pas, un bouquin de philo.
Il est fini les livres. Qu'est-ce qu'ils utilisent les gens à la place d'un livre?
Un iPad alors.
Voilà, c'est un iPad. Il transporte son iPad dans la mallette. Il sert à savoir si quand là il se déplace avec sa mallette, quand il vient aux abords du ring, est-ce qu'il a l'iPad? Et le jour où il va cacher, est-ce qu'il y aura l'iPad dedans?
Ah, il faut pas qu'il oublie quand même. Quand il met un coup dans la tronche. J'espère qu'il a pris l'Apple Care, c'est tout.
Ce que j'allais dire, il va aller à l'Apple Store, le mec va faire. Non, je t'ai vu la semaine dernière, tu avais.
Tu vas pas me la faire toutes les semaines, Baron, là, tu fais chier.
J'ai vu, t'as tapé avec. Écoute, c'est la fin des anecdotes du Baron. Voilà, c'est pour le rendre un petit peu. Il est déjà fort sympathique, ce Baron, mais voilà. Voilà les petites anecdotes backstage. Écoute, C'en est fini du baron. On va passer à notre main event qui concerne une autre mallette, la mallette des filles. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas savoir ce que Carmella met dans sa mallette.
Pour l'instant, il y a un contrat.
Mais pour l'instant, il y a un contrat, effectivement. Alors donc, on refait le catch, hein, comme on vous l'a dit en début d'épisode. Bon alors, donc tout est. On a l'impression de se retrouver dans le pay-per-view. Hein. Toutes les filles, voilà, c'est la cloche sonne. Toutes les filles se mettent sur la gueule à l'extérieur. Carmella, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, décidément, hein, c'est elle la plus maligne. Hein. Elle toute seule, elle en profite pour essayer de grimper sans attendre. Mais les autres participantes donc, reviennent. Elles éliminent la princesse de Staten Island. Double souplesse, hein, contrée par Becky Lynch. Je crois que c'était Naomi. La Canadienne et puis Charlotte.
Natalia.
Lynch qui passe un énorme explodeur sur Charlotte. Autour de Tamina, hein, de faire une démonstration de force et un petit peu d'agilité également, puisqu'elle place ce qu'elle n'avait pas fait lors du preview. Elle fait son saut de la Jimmy Snuka depuis le turnbuckle. Ouais. Bon, l'atterrissage n'est pas sans douleur. Hein. Visiblement, ça s'est fait plus mal qu'elle n'a fait mal à son adversaire. Elle enchaîne en se débarrassant de Carmella par-dessus la table des commentateurs. Entre les cordes, hein, c'est Charlotte, Natalia et Becky qui se mettent sur la tronche. Puis Tamina et Charlotte se disputent l'échelle. Becky en profite pour grimper, mais elle se fait sécher après que l'échelle ait atterri sur les cordes. Plus tard, un peu plus tard dans le match, hein, c'est Charlotte et Natalia qui bouffent la corde à leur tour et Becky Lynch, elle, bouffe le spear de Tamina. Tamina qui déroule. Hein. Les quatre frustrées hein, du pay-per-view précédent, elles se battent en haut de l'échelle. Elles se neutralisent mutuellement. Carmella est à un doigt à ce moment-là de décrocher la mallette, mais les quatre cités s'empare de l'échelle et la déplace gentiment de quelques mètres sur le côté. Alors, ça m'a fait marrer parce qu'il y a plein de gens qui gueulent en disant ouais c'est les filles alors du coup elles font attention à elles, mais en fait c'était juste super drôle quoi de voir.
C'était assez drôle
là, clairement c'était marrant.
C'est pourquoi elle la pousse pas
mais oui c'est genre... c'est le côté un peu on va la ridiculiser toi en fait, c'est surtout ça que j'ai trouvé marrant. Bref, parce qu'elles ont envie non seulement de lui casser la gueule mais de la rendre ridicule. Alors après, Charlotte tente de tuer Tamina, tant qu'à faire, hein, un peu de violence, en l'écrasant en plusieurs reprises avec l'échelle. Je sais pas trop ce qu'elle faisait, c'était un petit peu galère, Tamina était au sol et elle plaçait l'échelle de différentes façons. À mon avis, elle a eu pas mal de bleus à la fin, la Tamina. Elle se venge une minute plus tard en renversant l'échelle, elle décapite Charlotte. Les powerbombs pleuvent, hein. Le ring est nettoyé, Becky Lynch est sonné, Tamina et KO. Charlotte et Natalia sont occupées à l'extérieur à se tabasser là dans les gradins. On parle hein, souvent d'une rivalité hein, qui existe déjà depuis début quasiment, depuis les débuts de Charlotte, qui a l'air de vouloir reprendre là. Et du coup, la foule gronde. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est James Ellsworth qui a parvenu à déjouer la sécurité du stade. Alors moi qui pensais qu'il arriverait par le toit ou un truc complètement... il s'était quand même fait virer du stade. Bah non, il est juste passé. Randy Orton avait dit qu'il ferait. Il achetait un ticket pour pouvoir rentrer dans les gradins. Évidemment, James Ellsworth arrive. Il entreprend à nouveau de récupérer la mallette. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas. Becky Lynch castre le pauvre James en le plantant dans la troisième corde. Voilà, le message est passé. Les féministes sont contentes.
Ça y est,
elles ont eu leur vengeance. La victoire semble s'offrir à la rouquine, mais un énorme coup de chaise tue tout espoir. C'est Carmella qui allait servir là sous le ring. Elle élimine pour de bon l'Irlandaise et décroche pour la seconde fois la mallette. Double Money in the Bank, elle rejoint CM Punk dans le panthéon du Money in the Bank, rien que ça.
C'est vrai, je m'étais pas fait la réflexion, mais c'est vrai que du coup, elle est double vainqueur. Ouais. Eh, c'est vrai, putain, merde.
Eh ouais, moi je dis bravo, madame. Pardon. Bravo, chapeau. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'ils ont réussi à s'en tirer là de tout cette boue là, cette gadoue, cette mélasse dans laquelle il s'était plongé la semaine dernière en reprogrammant ce match?
Moi je trouve oui et non, c'est à dire que ça passe, enfin genre voilà, Carmella a eu une victoire qui a quand même attiré les huées, donc bon, ça va, c'est pas gâché. Mais moi personnellement, j'ai pas été très fan de la répétition. J'ai trouvé le match j'ai beaucoup lu que le match était mieux que le premier, enfin que ce match-là était mieux que le premier. Moi, personnellement, je trouve pas trop. Je l'ai trouvé ni moins bien, ni mieux. J'ai trouvé que c'était encore une fois assez, assez moyen. Je trouve qu'elles sont pas à l'aise encore dans l'exercice et ça se ressent à plein de moments. Alors, il y a des trucs drôles. Ouais, le coup de déplacer l'échelle au lieu de la faire tomber, c'est original, c'est vrai. Mais de manière générale, tu t'amuses quand même 10, 20, enfin 30 fois moins à regarder un Money in the Bank de filles qu'un Money in the Bank de mecs. Alors, est-ce que c'est parce que elles font pas des spots de taré en mettant en jeu leur santé, machin, des trucs comme ça? Ça doit jouer un petit peu, mais aussi de manière générale, je sais pas, sont pas à l'aise, elles
encore
font.
Encore le frein là qui est enclenché.
Ouais, t'as plein de trucs, elles font leur spot et puis elles roulent hors du ring et puis c'est très chorégraphié. Il y a des moments, c'est pas de leur faute. On peut aussi dire que c'est la faute des cadreurs, mais c'est vrai que t'as un moment où tu l'as dit, elles sont toutes KO et t'as Carmella qui commence à monter toute seule. Sauf que là, le plan est beaucoup trop large et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur les bords de l'écran? On voit toutes les filles qui sont en train de la regarder parce qu'en fait, elles sont arrêtées de se taper dessus trop tôt. Et donc, en fait, elles sont en train de la regarder. Genre, ah oui, attends, attends, faut qu'on attende.
Ridicule.
Faut pas qu'on intervienne tout de suite. Ça y est, maintenant on y va. En fait, c'est plein de petits trucs où en fait tu sens que genre elles ont pas l'habitude, quoi. Elles savent pas le faire. Elles ont les matchs à échelle. J'imagine qu'elles en font pas tous les 4 matins. Encore moins des Money in the Bank. Donc en fait, il y a plein de trucs qui heurtent un peu le flow du match, quoi. Enfin, donc moi j'ai jamais vraiment réussi à me plonger dedans. Ouais. Et après sur le finish. C'est dommage parce que c'est pas mal. Le coup de la chaise, c'est bien joué. Parce que, écoute.
Jusqu'à aller en train de se rendre compte en direct, là. Écoutez.
Non.
C'était pas mal, en fait.
Non, mais la chaise, c'est bien joué parce que. Non, mais j'ai pas aimé l'exécution. Mais l'idée était bonne parce que la chaise, c'est. Je fais appel à nos auditeurs qui nous diront, mais. J'ai pas souvenir d'un Money in the Bank où justement, on a beau marteler que c'est sans disqualification, il n'y a pas de règles, patati patata. Je me souviens pas d'un mec dans un Money in the Bank qui allait chercher une chaise, qui allait chercher un kendo stick, qui allait chercher un extincteur, une poubelle ou n'importe quoi. Et en fait, Carmella, dans ce sens-là, elle est très cohérente et très intelligente par rapport à son premier match. Elle arrêtait pas de dire « mais il n'y a pas de règles, je fais ce que je veux ». Eh ben, il n'y a pas de règles, je fais ce que je veux. Elle a encore trouvé du coup « bah ouais, je vais aller prendre une chaise et je vais la défoncer ». Donc ça, c'était bien vu. Mais en fait, là où j'ai pas aimé le finish, c'est on n'a pas arrêté de dire la semaine dernière, il faut que ce soit une crasse de ouf. Il faut que ce soit un truc, ce soit pire que James Ellsworth qui vient chercher la mallette. Ça aurait pu être pire parce que ce qui était pas con dans l'idée, c'est que déjà d'une, elle va chercher une chaise, donc c'est vraiment une connasse. Enfin, genre c'est une connasse intelligente, mais c'est une connasse quand même, tu vois. Genre, et puis en plus, elle attaque Becky Lynch qui était tout le monde voulait l'avoir gagnée. Tu sentais que quand on a commencé à comprendre qu'elle pouvait gagner, là, la foule était super contente. Je te vois plus là. Hein. La foule était super contente. Et du coup, c'était bien. Il fallait capitaliser là-dessus. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé que c'était trop rapide. On n'a pas eu le temps vraiment d'y croire complètement que Becky Lynch allait gagner. Et du coup, la déception n'est pas aussi forte que ce qu'elle aurait pu être. Parce que si on avait teasé un peu le truc pendant 2-3 minutes, je ne sais pas, que genre limite que tu sais qu'elle le spot classique de Money in the Bank où elles sont toutes les deux en haut et elle cogne Carmella et là, elle la fait chuter. Et là, tu te dis ça y est, elle va gagner. Putain, Becky Lynch va gagner, c'est notre favorite, c'est notre chouchoute, elle va enfin gagner et tout machin. Et là, boum, le coup de chaise, c'est vraiment, elle nous prive de notre joie et tout machin. Là, j'ai trouvé que c'était mal exécuté parce que on n'a pas eu le temps vraiment de croire à ça et c'était juste, elle est arrivée, elle a fait son spot et tout. Est-ce que c'était mal exécuté parce qu'encore une fois, elles ont plein de problèmes de timing pendant ces matchs-là et tout et je trouve qu'elles sont vraiment pas très très à l'aise. Peut-être. Donc l'idée était bonne, mais j'ai pas trop aimé l'exécution, ce qui fait qu'au final, à la fin du match, je me dis bon, ok, elle a regagné, mais je me sens pas plus vénère contre elle que la semaine dernière. Donc c'est ça qui est un peu dommage.
Mais en fait, c'est ça le problème. C'était, comme on l'a dit la semaine dernière, qu'ils se sont clairement mis eux-mêmes une difficulté énorme en refaisant tout ça, parce qu'ils avaient réussi à construire une super heal. Hein. C'est devenu, ça en parle sur le chat, là, c'était vraiment devenu le top heal de SmackDown, quoi, en 2 jours. En 2 jours, c'était devenu le top heal de SmackDown. Elle avait triché, et c'était un mec qui avait décroché, du coup, il y avait... Enfin, voilà,
double effet qui se coule.
Double
là.
Effet qui se coule. Deux jours plus tard, elle te sort une putain de promo. C'était le boulot était fait, quoi. Tu dis.
Ouais, on l'a dit, c'était fait. Voilà.
Et puis boum, on casse tout et il faut recommencer. Comme tu l'as dit, voilà. Je dis, bah, dans ce cas-là, il faut faire encore une plus grosse crasse, quoi. C'était juste pas possible. Et ils l'ont pas fait. Donc
parce que presque.
Bah presque, mais ils l'ont pas fait. Enfin, pour moi, ils ont pas fait. C'était pas une énorme crasse, toi.
Non,
coup de chaise, ok. C'était inattendu, on va dire. Parce que, comme tu le dis, c'est pas forcément. C'est vrai que les mecs, c'est vrai que c'est des no DQ, mais bon voilà, c'est des échelles et puis c'est tout. Hein.
Concentrez-vous sur les échelles.
On va quand même pas tout sortir. Ceci dit, en général, il y a quand même assez d'échelles pour se faire mal, donc pourquoi pas. Mais là, effectivement, c'était inattendu, mais moi, j'ai trouvé ça inattendu parce que je m'attendais vraiment à une grosse crasse et je fais ah, d'accord, ok, une échelle, ouais, bon, ok, enfin, voilà, c'était pas moins crasse que. Enfin. En fait, c'est ça, c'est au final, en céphalogramme plat, quoi. T'es là, ok, bon.
Ouais, tu dis, bon, ok, c'est toujours elle, et donc.
Elle a même
ouais,
perdu,
bon,
je trouve, enfin. En tout cas, à défaut d'avoir. Enfin, à défaut de pas avoir monté, augmenté en hits, ce qui aurait été un exploit, et là, j'aurais. Enfin, pas applaudi dès demain, parce que pour moi, il y a quand même l'erreur est toujours là, toi.
Elle est en amont, quoi.
Initiale. Ouais. Mais j'aurais applaudi leur capacité à rebondir sur ouais. sur ce que je considère être une erreur. J'aurais fait putain les gars ils ont réussi à la rendre encore plus heal. Alors je ne sais pas peut-être que auprès du public de toute façon les gens enfin tout est fait pour que les gens la huent toi mais pour autant ils ont vraiment enfin tout ce qu'ils ont mis en place pour y arriver n'était pas bon et ils jouent un jeu dangereux en faisant ce genre de booking de construction donc ouais. Donc voilà donc pour moi c'est mission non accomplie voilà la fusée c'est pas explosée en plein vol mais elle a pas vraiment décollé toi enfin il s'est pas passé on est géostationnaire là toi alors que c'est quand même un deuxième money in the bank toi on a sacrifié quand même le deuxième money in the bank pour ça et donc bah comme elle le dit comme elle l'a rappelé à Talking Smack d'ailleurs elle est deux fois Miss Money in the Bank donc ça à la limite elle va pouvoir l'utiliser pendant un baquet de bout de temps pour acheter
elle va nous elle va nous le dire
casser
hein,
les couilles.
Mais c'est bien il faut qu'elle
donc,
le
voilà,
dise
voilà elle va je j'ai aucun enfin je me fais pas de soucis pour que elle ait justement suffisamment de choses à mettre et puis bon, ce que je regrette comme toi, c'est je te rejoins, c'est la qualité du match, quoi. Là, c'est, pour moi, c'est presque impardonnable parce que autant le premier, bah, c'était la première fois, autant là, elles étaient à 10 jours et enfin, je sais pas, elles auraient pu monter d'un
ouais,
cran
et
surtout, elles étaient censées avoir la rage d'y arriver, quoi. La rage. Et elles avaient plus de rage quand elles se sont mises sur la gueule, souvenez-vous, avant le Money in the Bank, elles étaient devenues incontrôlables et qu'elles avaient tout détruit.
On n'a pas retrouvé cette intensité pendant
jamais,
les matchs,
jamais.
Pendant
cette
les deux matchs.
On ne l'a jamais retrouvée. Et là, c'était l'occasion de la retrouver, l'intensité. Vraiment, vraiment cette haine de Carmella et cette volonté farouche de dire non, c'est moi la véritable gagnante, celle qui s'est légitime pour avoir la mallette, on l'a pas retrouvée, quoi. Elle s'était pas plus motivée que ça, quoi. Dans le ring, ça s'est pas traduit par une motivation supplémentaire qui nous aurait gratifié de spots complètement hallucinants. Il y avait des bons spots, mais comme tu dis, toujours attention, oh, je fais attention, ça va, t'es bien placé là.
Ouais, c'est mon tour ou pas?
Ouais,
j'espère que
je t'ai pas fait trop mal. Oh là là, enfin. Non, enfin, ok, enfin, c'est des professionnels, donc toi, et puis il faut la sécurité d'abord, mais enfin, vu ce que se mettent les gars sur la gueule, ce qu'ils proposent.
C'est le jour et la nuit.
Je
hein,
suis quand même, enfin, je suis sûr qu'elles peuvent le
alors
faire.
Alors après,
hein,
je vais pas demander. Je vais pas demander, j'en sais rien moi. Enfin, ça reste des athlètes professionnels, donc
de haut niveau.
J'imagine.
Comme
oui,
ils disent
de haut
à la
niveau,
télé
donc
française.
J'imagine quand même qu'elles peuvent faire probablement un peu plus que ça, mais évidemment. Enfin, qui suis-je pour aller leur dire putain, mais sortez-moi une putain de sunset powerbomb là sur une échelle que je me marre un peu et tout. Donc non, je peux pas leur dire ça décemment. Mais c'est vrai que il manque un truc quoi. Genre il y a des échelles. En fait, à part grimper sur les échelles, elles font quasiment rien avec. En fait, c'est
ouais, y a vraiment eu très peu effectivement de séquences qui ont permis de de profiter de ce deuxième Money in the Bank, donc Carmella ressort à nouveau la grande gagnante. Écoute, on a beaucoup parlé, ouais. On arrive bientôt à l'heure de
oh non,
de
ça numéro. Va pas ça.
Ça ouais. Ne va pas. Alors vite, on enchaîne. Ton mot de la fin, s'il te plaît, ton flop et ta note, Giscale.
Alors, mon flop, je vais commencer par mon flop. Bah, le seul point noir de l'émission, je vais le donner à Lana, mais c'est pas de sa faute. Enfin, non, allez, à Naomi et Lana, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais enfin, à ce match et à l'incohérence totale entre ce match-là et leur précédent. Il y a des moments où, si vous voulez la faire gagner en mode Naomi, elle squash des gens et tout, c'était peut-être pas la personne avec qui le faire, donc non. Donc je vais leur donner mon flop. Et puis pour mon top, je vais renouer avec les bonnes pratiques et je vais le donner à Tyler Breeze et Fandango pour un épisode excellent.
Un excellent cru
de Fashion Vice ou Miami Vice ou Fashion Police, ou ce que vous voulez. Et ma note, je vais quand même donner une bonne note parce que on a quand même un bel épisode. Je vais donner 3,5. Écoute, ils ont peut-être pas rempli leur objectif. Ils s'étaient tiré une balle dans le pied, mais bon, au moins ils ont pas non plus tout cassé avec les filles, donc ça va. Et sinon, écoute, tout le reste. Me lance plutôt bien vers la route vers Battleground là dans 3 semaines, que ce soit au niveau des équipes, du champion de Kevin Owens, on en a assez peu parlé, du champion mondial aussi là, Jinder Mahal, tout ça, donc écoute,
ah oui c'est allez. Vrai lui là, alors moi mon top attends mais qu'est-ce que c'est ça, pourquoi j'ai ça, ah oui non c'est mon ancien top, j'avais eu mon top, et ben écoute, alors je commence avec mon flop, je te rejoins, pour moi c'est Naomi versus Lana, souvent on essaye de voilà, on se partage les flops, mais là pour moi c'est
ouais,
ça le flop,
c'est compliqué
quoi.
Là ouais.
C'est un peu, enfin, voilà. Et mon top c'est la victoire du Baron, voilà, un porteur de mallette victorieux, c'est une bonne chose je trouve, même si j'ai des doutes quant à ce que ça continue comme ça. Et ma note, ouais. Eh ben écoute, moi, un peu plus sévère, j'ai mis 3 parce qu'il est à noter quand même.
Ça reste une bonne note.
C'est une bonne note, mais il est à noter que les 3 revenants de la semaine dernière ont redisparu.
Oui, ont redisparu.
Chad Gable, Luke Harper, Tag Dillinger.
Bah, c'est-à-dire que la carte de cette semaine était déjà bookée dès la semaine précédente. Les 4 matchs étaient annoncés déjà.
Ça fait 6 mois qu'on vous a booké ce weekly, alors vous n'avez pas dû casser les couilles. Vous.
Donc là, ouais, il fallait attendre la semaine prochaine.
Bon, allez, ça y est, hein, officiellement, on a dépassé l'heure d'enregistrement. On avait beaucoup de choses à dire, comme quoi hein, ça fait parler. Ils arrivent à maintenir notre intérêt. Ils sont très forts. Hein. Écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour un nouveau numéro. Je rappelle à tous nos auditeurs et nos spectateurs qui peuvent nous suivre en audio sur iTunes, PodCloud, en vidéo sur la chaîne YouTube. À Catchup CDC pour le Twitter, Catchup CDC pour le Facebook, les cahiers du catch.com pour retrouver la plume de vos chroniqueurs favoris et de bien d'autres, hein, parce qu'il y a une armada de rédacteurs de talent sur les cahiers du catch.com, une autre vision du catch. Rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, vous aurez droit à un petit Catchup Pro, voilà, un Raw aussi, ça bouge pas mal. Hein, il y a comme des belles affiches là qui s'annoncent pour le pay-per-view. C'est quand d'ailleurs, c'est ce week-end? Non.
Ah non, enfin attends, tu parles duquel? The Great Balls
of
Fire.
Les formidables boules de feu.
Les formidables boules de feu, c'est pas ce dimanche, c'est le dimanche prochain.
Ok, donc le home show la semaine prochaine. Merci à toi Giscale.
Merci Irem.
Merci à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, et bonne semaine de catch, salut.
Allez, ciao tout le monde. C'est marrant, j'ai un symptôme comme ça. Bah, tiens, par exemple, FF15, que j'ai toujours pas fini. Je l'ai défoncé pendant plusieurs jours. Je trouvais trop bien. Et je suis arrivé à la dernière zone. Et genre, j'arrive à la dernière zone et j'ai complètement arrêté de jouer. Parce que du coup, psychologiquement, je fais un blocage. J'ai pas envie de finir les jeux.